Hervé Gardette, votre transition, vous avez tenté de calculer votre empreinte carbone.
Il y a quelques jours, l'ONG caritative Oxfam publiait une étude retentissante consacrée aux émissions mondiales de CO2 et à leur répartition très inégalitaire selon les pays et le niveau de revenu des individus. L'accent était mis en particulier sur le fait que les 10% les plus riches de la population mondiale seraient responsables d'un peu plus de la moitié des émissions de dioxyde de carbone. Quant aux 1% les plus riches, ils seraient responsables de deux fois plus d'émissions que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Alors j'écris ces phrases au conditionnel car j'ai toujours un doute face à de tels résultats qui tombent un peu trop juste pour être tout à fait crédibles. 10%, 1%, la moitié, deux fois plus, voilà des ordres de grandeur en tout cas très faciles à mémoriser. Mais tel n'est pas mon propos ce matin. Après la publication de cette étude, je me suis posé une question. Est-ce que je fais, moi aussi, partie des 10%, voire pire, des 1%? Alors, plutôt que de solliciter mon gestionnaire de patrimoine, j'ai décidé, pour me faire une idée de ma position sur l'échelle des richesses, de calculer mes émissions de carbone. D'après Oxfam, l'empreinte moyenne en France d'un individu appartenant aux 10% les plus riches est de 17,8 tonnes de CO2 par an, sachant que la moyenne nationale globale est de 11,6 tonnes. Voyons ce que cela donne. Eh bien, ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut sous la main. Les éditions Marabout viennent de publier un ouvrage qui propose, via une série de petits tests, de calculer son empreinte personnelle. L'ouvrage s'intitule « Pourquoi les cochons d'Inde vont-ils sauver la planète ?» rapport au fait que ces petits rongeurs s'avèrent être des compagnons neutres en carbone, contrairement aux chats qui émettent en moyenne 400 kilos de CO2 par an.
Je ne sais pas si je vous ai...
Oui, c'est le cas en l'occurrence, donc ça tombe bien. Je ne sais pas en tout cas, Guillaume, si je vous ai déjà dit que j'avais un chat à la maison. Mais voilà une raison de plus pour ne plus lui adresser la parole. Sa présence me coûte déjà 5 points. Le but à la fin du test étant d'avoir le moins de points possible. Alors, j'ai la chance de détester le fromage. Zéro consommation, score vierge. Mais j'ai le défaut de manger encore de la viande et du poisson. 11 points dans la vue. Encore que le mode de vie végétarien ne soit guère plus vertueux, je prends 15 points supplémentaires pour appliquer à la lettre le fait de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Si je comprends bien le principe de ce test, le mieux pour ne pas émettre trop de CO2, c'est de ne pas manger pendant les repas. Or, pour info, moins vous faites de sport, moins la planète se réchauffe, ce que Churchill en son temps avait bien compris. Je rappelle, un Osport, répondait-il quand on lui demandait le secret de sa longévité. Sauf que Churchill n'avait ni smartphone, ni tablette, 12 points de plus. Alors je vous passe le détail des autres catégories, les transports, 53 points, le logement, l'habillement, pour arriver au prix de quelques approximations, au score de 192 points, en dessous des 200, c'est-à-dire en dessous de la moyenne des émissions françaises de CO2. Vous êtes sur la bonne voie, me dit le guide Marabout. Pourtant, on dirait qu'il y a encore de la marge. Oui, bah, je fais ce que je peux. Deux sources valant toujours mieux qu'une seule. J'ai répété l'exercice avec le calculateur de l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Cette fois, ce ne sont pas des points qui sont attribués, mais directement une estimation de votre production de dioxyde de carbone, en fonction, là encore, de votre alimentation, de vos modes de transport, de l'âge de votre poste de télévision et des achats de mobilier effectués dans l'année. Pour ma part, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau canapé, l'ancien ayant été détruit par les griffes de mon chat. Je me souviens plus si je vous ai déjà dit que j'avais un chat
vous
à la maison.
Vous avez un chat ?
Alors vous souvenez Guillaume qu'en moyenne, chaque Français émet 11,6 tonnes de CO2 par an. Eh bien mon bilan selon le calculateur de l'ADEME, 8 tonnes et des poussières. Ça se confirme donc, je ne fais pas partie et de loin des 10% d'Oxfam. Il faudra donc, je pense, à envoyer mes résultats de test à l'administration fiscale. Et tiens d'ailleurs, si le taux d'imposition pouvait varier en fonction du bilan carbone de chacun? Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être bientôt.
Frédéric Worms, ça mérite quand même une condamnation morale.
Justement, on parlait de la responsabilisation des citoyens sur la pandémie, voilà que sur l'environnement, mais ça fait longtemps, hein, avec le tri aussi dans nos immeubles, avec tous ces comportements. Et donc, on en appelle au comportement de chacun, et de chacun de se dire, mais quand même, ok, d'accord, vous me culpabilisez avec ces points, etc., mais par rapport aux États-Unis, la Chine, les grandes entreprises, c'est rien du tout. Et je crois que c'est vrai. Je crois que ce type de leçon n'est audible, et on ne peut agir que si en même temps il y a une vraie action politique nationale et internationale. Donc il faut le prendre comme une prise de conscience pour peser aussi évidemment sur les politiques. Parce que sinon, la moralisation individuelle, je crois que ça, c'est contre-productif. Hein. On voit bien que notre humour, l'humour d'Hervé Gardette et notre ironie intuitive comme ça, bah, ça peut saper aussi le but recherché. Hein.
François Hartog.
Oui, moi je serais tenté d'élargir la réflexion. Puisque là, c'est très bien, on calcule combien votre chat coûte, etc.
Puisqu'il a un chat. Hein.
Oui, puisqu'il a un chat qui a mangé le canapé, etc. Bon.
C'est irresponsable, un chat.
Mais veux dire, si vous élargissez au-delà de notre petit monde, de l'Europe, pour prendre en compte ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe éventuellement dans certains pays d'Afrique, la situation est complètement différente. Puisque nous avons des populations, c'est-à-dire, prenons la Chine, dont je ne suis nullement spécialiste, nous avons une émergence d'une classe moyenne au cours des 30 dernières années, avec des centaines de millions de gens qui accèdent à la consommation. En Inde, c'est un peu la même chose. Or, cette consommation, ça veut dire, c'est un exemple que me donnait l'historien ami Chakradipesh Chakravarti, au nom de quoi vais-je interdire ou culpabiliser un Indien qui fait l'acquisition d'un appareil pour... Pas seulement
d'un frigidaire. Il peut acquérir différents types d'appareils.
Oui, pas d'un frigidaire.
Un atomixeur.
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
Comme la chanson de Boris Vian.
Un climatiseur,
excusez-moi. Ah. Bon, l'acquisition d'un climatiseur. Bon, c'est très mauvais, je pense, l'empreinte carbone d'un climatiseur. Pour dire... pour acquérir un climatiseur, c'est pour lui rendre sa maison plus habitable et permettre, par exemple, à ses enfants de travailler, de faire leurs devoirs dans des conditions qui devraient leur permettre ensuite d'avoir une meilleure position. Bon, voilà, nous sommes face à ça.